Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de La Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 1er octobre 2014, en direct de Washington. Au micro Nicolas Pinault et Morgane Guerriec. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, premier cas d'Ebola sur le sol américain.
Ça doit maintenant donner une leçon aux Américains. Nous devons nous considérer comme faisant partie d'un grand village.
Le docteur Malonga Miatou Dila, expert en santé publique.
Au Niger, rentrée parlementaire sans le président de l'Assemblée en fuite et sous mandat d'arrêt.
Hong Kong, la mobilisation se poursuit malgré les avertissements des autorités.
Le nucléaire iranien au centre d'une rencontre aujourd'hui entre Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Nous vous le disions en titre, premier cas d'Ebola sur le sol américain. Le patient est hospitalisé au Texas où le gouverneur Rick Perry a confirmé aujourd'hui qu'il a eu des contacts avec des enfants en âge scolaire. Les autorités essaient de déterminer qui d'autre pourrait avoir été en contact avec cet homme revenu du Liberia, comme nous l'explique Nathalie Barge.
Le gouverneur du Texas, Rick Perry, a déclaré que des enfants scolarisés ont eu un contact avec le patient et sont maintenant sous surveillance. Il n'a pas identifié ces enfants. Trois agents de l'équipe médicale qui ont traité le malade durant son transfert à l'hôpital ont été testés négatifs, mais seront suivis pendant 21 jours, indiquait la municipalité de Dallas. Mardi, le chef des centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le docteur Tom Frieden, a confirmé un cas d'Ebola chez un homme qui a été infecté au Liberia. Il a commencé à présenter des symptômes plusieurs jours après son arrivée à Dallas. Il est en isolement total depuis dimanche à l'hôpital presbytérien du Texas. Les responsables de l'hôpital ont reconnu qu'il était venu deux jours plus tôt, mais avait été renvoyé à la maison avec des antibiotiques. Aujourd'hui, son cas est considéré comme grave. L'association des Libériens du Texas a appelé les ressortissants du Liberia à se présenter au CDC s'ils pensent avoir été exposés au virus.
Notons aussi qu'un proche de ce patient atteint d'Ebola au Texas pourrait être lui aussi infecté. C'est ce qu'a dit le directeur des services de santé de Dallas. Et comme le souligne le président de la Banque mondiale, le combat contre Ebola est également celui contre l'inégalité nord-sud en termes d'accès aux soins. La communauté internationale a échoué à rendre accessibles les infrastructures et le savoir-faire à des populations disposant de bas revenus, reconnaît Jim Yong Kim. Du coup, selon lui, des milliers de personnes meurent parce qu'elles sont nées au mauvais endroit.
À noter également que le virus Ebola a fait 42 morts en République démocratique du Congo, selon le dernier bilan du ministre congolais de la Santé. On reste en RDC. Le procès des meurtriers présumés de Mamadou Ndala s'est ouvert aujourd'hui à Beni, dans l'est de la RDC. Tué en janvier, le colonel congolais était à l'origine de nombreuses victoires contre la rébellion du M23. Parmi les principaux accusés figure le lieutenant-colonel Tito Bizourou, ancien commandant de la place militaire de Beni.
Silence du Quai d'Orsay concernant l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie. Le ministère français des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire sur les enquêtes en cours en France et en Algérie. Les autorités algériennes poursuivent activement leurs recherches pour retrouver le corps de notre compatriote et arrêter ses assassins, indique le gouvernement français.
Partons au Niger où le Parlement a effectué sa rentrée en l'absence de son président Amah Amadou, actuellement en fuite en France et visé par un mandat d'arrêt. Idriss Fall.
Les députés de l'opposition ont boycotté l'ouverture de cette session budgétaire qui doit durer 60 jours. Pour la première journée, le remplacement de Amah Amadou n'a pas été à l'ordre du jour. Depuis son exil français, le président de l'Assemblée avait convoqué cette session pour le 7 octobre. Le premier vice-président, Daouda Malam Marté, du parti au pouvoir, a fixé en accord avec le gouvernement une autre date, le 1er octobre. Objet d'un mandat d'arrêt national, Amah Amadou s'est enfui le 27 août après le feu vert de ses pairs pour qu'il soit entendu par la justice dans une affaire de trafic de bébés. 17 personnes, dont l'une de ses épouses, sont actuellement derrière les barreaux. Président du Parlement, ancien Premier ministre et principal opposant au chef de l'État, Amah Amadou affirme que le pouvoir cherche à l'écarter de la présidentielle de 2016, ce que nient les autorités de Niamey.
Ama Arba Diallo, figure de proue de l'opposition au Burkina Faso, est décédé à Ouagadougou à l'âge de 75 ans. Il avait perdu la présidentielle de 2010 face au président Blaise Compaoré, nous dit Jean-Roger Billon.
Le décès d'Arba Diallo a été rendu public par sa famille qui n'a pas précisé la maladie dont souffrait le défunt. Ama Arba Diallo était l'un des principaux opposants au président Compaoré, leader du Parti pour la démocratie et le socialisme, Fassou Metba. M. Diallo était arrivé deuxième derrière Blaise Compaoré à la présidentielle de 2010 avec 8,21% des voix. Il était député maire de la commune de Dori depuis 2007 et cinquième vice-président de l'Assemblée nationale. Il a fait l'essentiel de sa carrière aux Nations Unies, membre fondateur du Parti africain de l'indépendance qui prônait l'indépendance des colonies africaines. Il avait été ministre chargé des relations extérieures du président Thomas Sankara avant de devenir ambassadeur au Japon, en Chine et en Inde. Surnommé Ho Chi Minh à cause de sa barbichette, semblable à celle du leader vietnamien, Ama Arba Diallo participait aux côtés des leaders de l'opposition aux négociations avec la majorité sur l'article 37 de la Constitution, limitant les mandats du président Compaoré.
Regain de tension, les autos. D'après l'agence France-Presse, deux policiers ont été blessés hier soir lors d'une fusillade avec des militaires près de la capitale Maseru. Le pays a basculé, vous vous en souvenez, dans l'instabilité suite au coup d'État manqué fin août.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, au sixième jour des manifestations, les protestataires sont fortement mobilisés en ce jour de la fête nationale chinoise. Ils sont restés sourds aux appels répétés des autorités leur demandant de stopper les manifestations qui pourraient commencer à avoir des répercussions sur l'économie. Claire Morin-Gibourg.
La révolution des parapluies commence à peser sur l'économie locale, mais c'est surtout le statut de place financière de Hong Kong qui pourrait vaciller si la situation persiste. Les conséquences économiques sont déjà palpables avec la fermeture des banques, la perturbation des transports et les annulations de voyages d'affaires. Gareth Leather, du Centre de recherche Capital Economics, a confié à l'AFP que si les manifestations s'éternisaient, le tourisme et le commerce, qui représentent 10% du produit intérieur brut du territoire, seraient fortement touchés et Hong Kong pourrait alors sombrer en récession. Mais ce sont surtout les conséquences financières d'une éventuelle aggravation de la crise qui inquiètent. Des centaines de milliards de dollars transitent chaque jour sur les marchés des matières premières et à la bourse de Hong Kong, considérée comme la troisième place la plus efficace du monde après celle de New York et Londres.
Les milices kurdes continuent de défendre la ville de Kobané près de la frontière turque contre les attaques de l'État islamique. Elles sont soutenues par les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis. Trois bombardements ce mercredi ont détruit un char, des pièces d'artillerie, un véhicule blindé et des djihadistes. Plus de 160 000 personnes ont fui leur maison à cause de ces affrontements.
Et toujours en Syrie, double attentat à la voiture piégée à Homs. Bilan, au moins 17 morts, la plupart des enfants. L'Observatoire des droits de l'homme, basé à Londres, parle de 39 morts, dont 30 enfants. Les explosions ont eu lieu près d'une école primaire et d'un hôpital dans un quartier à majorité alaouite de Homs, berceau de la révolte contre Bachar al-Assad.
Rencontre ce matin à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec une attention particulière sur le programme nucléaire. M. Netanyahou a mis en garde contre les risques d'un accord avec Téhéran qui placerait l'Iran au seuil de la puissance nucléaire, selon lui. M. Obama, de son côté, a appelé à faire évoluer le statu quo entre Israéliens et Palestiniens.
Dans l'est de l'Ukraine, au moins 10 personnes sont mortes lorsque des obus sont tombés près d'une école et d'un minibus à Donetsk. L'administration régionale pointe du doigt les rebelles séparatistes, mais ces derniers accusent les troupes gouvernementales.
Et puis à la Cour pénale internationale, l'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a commencé ses remarques finales, insistant sur son innocence dans les crimes commis en Bosnie durant la guerre des années 90. Près de 8000 musulmans ont été massacrés à Srebrenica, c'était en 1995. Dans un texte de plus de 870 pages, Karadzic admet une responsabilité morale, mais nie toute implication directe dans ce massacre.
Et ici aux États-Unis, le service Secret Service, qui est chargé de la protection du président et d'autres dignitaires, fait face à de nouvelles critiques aujourd'hui. La presse a révélé en effet qu'un agent de sécurité armé a pu prendre l'ascenseur le 16 septembre avec le président Obama et le photographier avec son portable lors d'une visite à Atlanta en Géorgie. Ouais. Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission. Un premier cas de fièvre hémorragique à virus Ebola a été identifié mardi à Dallas, au Texas, dans le sud des États-Unis. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, est arrivé sur un vol en provenance du Liberia début septembre et n'aurait éprouvé de symptômes de la maladie que quelques jours plus tard.
Oui, Morgane, il s'est présenté à l'hôpital une première fois, mais a été renvoyé à domicile avec des antibiotiques. Cela suscite beaucoup d'interrogations sur les services de santé ici aux États-Unis. Camille Grodidi a recueilli la réaction du docteur Malon Longa Miatoudila, expert en santé publique.
Quand il est venu du Libéria, il n'avait pas de fièvre. Bon, donc là, je peux excuser que lui-même ne se sente pas concerné. Et puis après, il fait de la fièvre. Il se présente dans un hôpital. Dans l'interrogatoire, on va lui demander. Dans les diagnostics différentiels, à ce moment-là, on aurait pu faire un test très simple pour voir, je sais, peut-être c'est malaria, peut-être c'est Ebola. À ce moment-là, il y a la première phase, la personne ne peut pas infecter quelqu'un. Et la deuxième phase, c'est la phase de grippe, fièvre de quelqu'un venant dans les conditions aujourd'hui du Libéria, dans les listes, je dois mettre Ebola. Donc on doit faire un test de malaria, un test de Ebola. Donc on aurait pu voir à ce moment-là qu'il avait le virus. Alors on les a attendu qu'il passe à la phase 3, où à ce moment-là, il peut contaminer d'autres. Donc ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Donc à la phase 2, quand il est venu pour fièvre, on aurait dû penser à Ebola. Bon, maintenant, ils n'ont pas pensé à ça parce que, bon, nous sommes aux États-Unis, nous sommes loin. Donc ça doit maintenant donner une leçon aux Américains et aux autres pays, aux autres membres des pays très développés.
Le malade a déclaré ne pas avoir eu de symptômes quand il a pris l'avion, mais est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il n'a pas dit toute la vérité?
Ah non, il est dans la phase 1. Nous appelons ça phase d'incubation. Donc si vous attrapez le virus aujourd'hui, vous allez d'abord passer par une phase d'incubation. Vous ne savez pas que vous avez le virus, bon, vous n'avez pas le signe. Donc il faut donner du temps au virus de se multiplier parce que ce virus-là est très infectieux. Il n'est pas très contagieux, mais il est très infectieux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une grosse dose pour développer la maladie. Donc vous avez été un peu distrait, vous avez touché le sang de quelqu'un, pas beaucoup, mais un tout petit peu seulement. Et alors, vous passez par la phase 1 où vous n'avez pas de symptômes, alors rien du tout. Donc, il pouvait être honnête, franc, sincère quand il a dit que, bon non, j'ai pris l'avion, je n'avais pas de problème.
C'est un avertissement que personne, aucune société ne peut sous-estimer l'Ebola.
Moi, je voudrais pas seulement insister sur le fait que nous devons nous considérer comme faisant partie d'un grand village. Les gens ne se rendent pas compte de quelles sont les implications de ça sur le plan même des changements climatiques, les maladies. Nous sommes maintenant un village. Et aucun pays ne doit se considérer comme étant en dehors de ce village, de ce bateau, de ce paquebot.
Voilà le docteur Malonga Miatoudila, expert en santé publique. Il avait fait partie, c'était en 1976, de la première équipe ayant identifié le virus Ebola en RDC.
Les forces de sécurité guinéennes intensifient leurs efforts de dépistage d'Ebola à la frontière avec le Libéria. Dans la région de Kindia, les autorités sanitaires sont en état d'alerte maximum. Un reportage de Karim Kamara, présenté par Lionel Gaïma.
Les gens qui arrivent à Madinaoula, à la frontière avec la Sierra Leone, sont soumis à des contrôles sanitaires rigoureux pour vérifier les cas de fièvre. Tous les voyageurs doivent se laver les mains avec du savon avant d'entrer en Guinée. Le comité de crise de l'Ebola à Kindia a répondu à plusieurs cas suspects d'Ebola. Un seul a été testé positif, précise le docteur Mori Togba, un responsable de la santé.
Tout récemment, on a enregistré effectivement un cas d'Ebola. Le cas d'Ebola, c'est un étudiant de médecine. L'étudiant en question s'était déplacé pour assister à une cérémonie funéraire d'un prêtre de l'église protestante Alléluia, à Conakry. Donc je crois que c'est à son retour qu'il a commencé à manifester ses différents symptômes. On s'est rendu d'abord dans la famille de l'enfant malade. Là-bas, ils sont au nombre de 4. Et on a d'abord essayé de les sensibiliser parce que le comportement ne devait plus être comme avant. Parce qu'il faut qu'ils restent sur place au moins pendant 21 jours. Donc tous les différents contacts ont été relevés. Et à l'heure là, on est en train de suivre les contacts. Donc le suivi des contacts a commencé depuis le 19. Et certainement, ils sont à leur 10e ou 11e jour comme ça. Pour le moment, aucun n'a présenté un signe de suspicion de cas d'Ebola.
Les proches de la patiente et le personnel médical qui l'a traitée ont été mis en quarantaine. Aucun n'a présenté les symptômes de la maladie. Mais au moins 33 agents de santé sont morts sur les 110 qui avaient été infectés. Selon le docteur Abdou Kondé, le chef de l'hôpital régional de Kindia, le problème majeur était la négligence du personnel médical qui ne portait pas des gants.
En ce qui concerne le personnel de l'hôpital, il y a eu 13 contacts que nous avons pu identifier. Ils sont actuellement sous contrôle médical et ils vont être suivis pendant 21 jours.
Maintenant, à Kindia, la campagne de sensibilisation sur l'Ebola semble avoir porté des fruits. La population coopère avec les agents de santé. Il y a toutefois quelques résistances. Selon Mariama Kamara, une femme d'affaires, les gens craignent que le paludisme soit confondu avec la fièvre Ebola.
Je suis sûre qu'il y a Ebola en Guinée, mais les gens n'ont pas sûr de ça, hein, qu'il y a Ebola en Guinée. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas Ebola en Guinée. Et tout ce qu'on dit, c'est du faux. Il ne fait que prendre les gens qui ont des palis, on l'amène à l'hôpital régional de Kindia pour les injecter, pour qu'elle meure, qu'il n'y a pas Ebola. Et c'est la politique du président.
Contrairement à certaines entreprises qui ont fermé leurs portes à cause de l'épidémie, la société minière Rusal est toujours en activité. L'entreprise russe d'exploitation de la bauxite emploie environ 10 000 personnes à Kindia.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan mitigé de la gouvernance en Afrique, dressé par la Fondation Mo Ibrahim, alors que des voix s'élèvent en RDC, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou encore au Burkina Faso, contre toute modification de la Constitution destinée à permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h30 sur la VOA.
Il est 19h47, temps universel. En République centrafricaine, les étudiants de l'université de Bangui étaient en grève aujourd'hui. Le mouvement d'avertissement n'a duré qu'une journée. Les grévistes ont été reçus par le chef du gouvernement qui a multiplié les promesses. Idriss Fall a joint à Bangui Kevin Yabada. Il est le président de l'Association nationale des étudiants centrafricains.
C'était pour la journée d'aujourd'hui. Nous revendiquons les conditions d'études et les conditions d'alimentation du foyer universitaire. Si on n'arrive pas à nous satisfaire, donc nous allons prolonger éventuellement.
Qu'est-ce que vous ont répondu les autorités alors?
Nous avons pu rencontrer le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et le ministre délégué aux Finances tout à l'heure, à la primature, pour pouvoir discuter sur la grève.
Qu'est-ce que vous promet le Premier ministre alors?
Il nous a promis que dès vendredi, il fera de son mieux d'alimenter le foyer universitaire et celui de l'ISDR de Maïti, et il fera de son mieux de répondre à nos exigences. Donc la priorité, c'est d'alimenter le restaurant universitaire pour l'instant, et les autres, maintenant, nous allons essayer d'être en même accord avec lui pour pouvoir réaliser. Donc nous attendons le vendredi, s'il n'y a pas la faisabilité de ça, c'est là que nous allons rentrer encore en action.
Et qu'en est-il des conditions d'études?
Les conditions d'études, d'abord, voir le côté calendrier universitaire, parce que il y a 2 années à l'université de Bangui, nous voudrions ce qui est une seule année. Vous savez également que nous avons beaucoup de problèmes d'infrastructure, de problèmes de dortoir, tout ça là. Donc, nous avons essayé d'évoquer tout à l'heure avec le Premier ministre et il nous a rassuré que lui-même, il est ressortissant de l'université de Bangui. Donc, il va essayer de voir avec nous dans les jours à venir comment mettre en place des conditions ou bien mettre en place une cellule qui va piloter ces aspects.
Quelle est la situation des étudiants musulmans? Est-ce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de l'université actuellement?
Pas beaucoup comme auparavant, avant les crises, là, ils étaient plus nombreux. Présentement, il y a certains qui ont déjà fait leur retour, mais il y a d'autres qui restent encore. On devait être en l'Assemblée générale avec eux le dimanche passé. Ils se sont forgés en association des étudiants musulmans, en abrégé AMCA, qu'ils se retrouvent au kilomètre 5. On devait aller, malheureusement, le samedi soir, il y avait eu une intercation avec les troupes de la MISCA. Du coup, nous ne pouvons pas faire le déplacement, donc on n'a pas pu se rencontrer avec le reste des étudiants qui se retrouvent encore au kilomètre 5, qui n'ont pas la possibilité de revenir au campus universitaire.
Kevin Yabada, président de l'ANECA, l'Association nationale des étudiants centrafricains.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, Human Rights Watch s'inquiète du sort de centaines d'ex-combattants et leurs familles regroupées par le gouvernement dans un camp isolé de Kotakoli, dans le nord-ouest du pays. Ils font partie de 941 membres de groupes armés qui s'étaient rendus en 2013 dans l'est du Congo avec leurs familles. Selon l'ONG, 42 d'entre eux et au moins 5 femmes et 57 enfants sont morts de faim et de maladie. Timothée Donangmaï a joint à Londres Philippe Bolopion de Human Rights Watch.
Quand nos chercheurs se sont rendus sur place, ils ont constaté que plus d'une centaine de personnes étaient mortes de faim ou à cause du manque de soins. Ils ont eu des témoignages racontant que beaucoup des enfants qui sont morts ressemblaient quasiment à des squelettes avant de périr. Tout simplement inacceptable au XXIe siècle de laisser des enfants et des gens mourir de faim dans un camp militaire alors qu'ils sont sous la responsabilité des autorités congolaises. C'est tout simplement de la négligence criminelle et le gouvernement congolais doit faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Il doit s'assurer que les gens qui sont responsables de ça vont devoir rendre des comptes. Et puis entre-temps, eh bien, il faut immédiatement déplacer ces personnes, les envoyer dans un camp qui est plus accessible, où on pourra leur envoyer de la nourriture, où ils pourront recevoir des soins si nécessaire. Et peut-être qu'il faudrait que l'ONU intervienne et s'assure elle-même que ces gens ne continuent pas à mourir et sont traités avec décence.
Que disent les autorités congolaises que vos chercheurs ont rencontrées ?
Écoutez, les autorités congolaises nous ont donné beaucoup d'excuses. Elles affirment qu'elles n'ont pas laissé ces gens mourir de faim à dessein, que c'est parce qu'elles manquent de moyens pour les nourrir ou pour les transporter. Mais il n'y a aucune excuse qui peut être valable quand on laisse mourir des gens de faim, quand on laisse des enfants jour après jour dépérir jusqu'au point où ils finissent par mourir. Donc au lieu de se lamenter, au lieu de donner des excuses, le gouvernement congolais doit assumer ses responsabilités et immédiatement faire ce qu'il faut pour que ces gens soient envoyés dans un camp où on peut s'occuper d'eux et pour qu'ils soient enfin nourris, soignés, avec le minimum de décence qu'on attend dans une situation comme ça.
Philippe Bolopion de Human Rights Watch à Londres. Timothée Donangmaï a aussi recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement congolais. Pour Lambert Mende, la situation est préoccupante au camp Kotakoli, mais pas aussi dramatique que l'affirme l'ONG.
Nous n'avons pas attendu Human Rights Watch. C'est depuis la fin de l'année dernière que notre commission interministérielle qui s'occupe de la situation du reclassement des membres des anciens groupes armés a décidé de réduire le nombre de personnes qui devaient être accueillies à Kotakoli, parce que nous avons trois centres où nous accueillons ces gens-là. Il est curieux qu'ils n'aient fait aucun travail sur Kamina, aucun travail sur qui est sur l'océan Atlantique dans la province du Bas-Congo, et se soient concentrés seulement sur Kotakoli, où ils ne sont même pas allés. Ce sont des zombies, des gens qui ont vu des gens qui avaient l'impression d'avoir faim, etc. Dans la réalité, lorsque nous avons approché les chiffres que Human Rights Watch brandit, nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les statistiques là et les statistiques générales de la mortalité dans notre pays. Beaucoup d'enfants, donc des nourrissons, etc. C'est presque, pas la même chose, mais c'est presque la même chose que nous constatons. Il y a beaucoup de mortalité dans la petite enfance, 60% à peu près. Nous constatons une dizaine ou une quinzaine de femmes, dont certaines qui ont perdu la vie en couche. C'est la même chose même dans la ville de Kinshasa. Beaucoup de femmes perdent de la vie lorsqu'elles mettent au monde parce que les maternités ne sont pas bien équipées. Nous ne voyons pas pourquoi il y aurait eu une différence à Kotakoli, qui est un endroit extrêmement enclavé. Le reste, lorsque les hommes en bonne santé, les hommes dans la force de l'âge qui sont morts une trentaine à peu près depuis un an, nous parlons une population de plusieurs milliers d'âmes. Et on parle là d'une quarantaine de personnes qui sont mortes. C'est la malaria, c'est la fièvre typhoïde, etc. Pas un n'a été victime de la faim, comme Human Rights Watch essaye de le dire.
Et voilà, on passe au sport. Dans cette émission, on retrouve Timothée Bonangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nico.
Allez, on parle football. Nouvelle soirée de Ligue des Champions sur les pelouses européennes.
Et oui Nico, Zenit Saint-Pétersbourg 0-0 pour AS Monaco, score final. Malmo Olympiakos 1-0 à la mi-temps pour Malmo. 0-0 à la mi-temps pour les matchs Atlético Madrid Juventus Turin et FC Bâle Liverpool. Ludogorets Real Madrid, un but partout à la pause. Bayer Leverkusen Benfica 2-0 à la mi-temps pour Bayer. Arsenal Galatasaray 3-0 à la mi-temps pour Arsenal. Anderlecht Borussia 0-1 à la mi-temps pour le club allemand.
Alors hier, le spectacle également en Ligue des Champions a été au rendez-vous pour les autres rencontres.
Et tout à fait Nico, à Paris, le PSG a battu Barcelone 3-2. L'APOEL a fait match nul face à l'Ajax Amsterdam, un but partout. CSKA Moscou, Bayern Munich 0-1, le Bayern qui a gagné donc. Manchester City, AS Rome, un but partout. Schalke, NK Maribor, un but partout également. Sporting Portugal, Chelsea 0-1 en faveur de Chelsea. Shakhtar Donetsk, FC Porto 2-2. Baté Borisov, Athletic Bilbao 2-1 pour Baté.
Allez, en dehors des terrains, le père de Neymar a lui été entendu aujourd'hui par la justice espagnole.
Le père de la star brésilienne a défendu aujourd'hui devant un juge la légalité des contrats signés pour le transfert de l'attaquant du FC Barcelone, affirmant que son fils a rejeté une offre bien plus juteuse du Real Madrid.
Allez, on parle des quarts de finalistes du mondial de basket féminin. C'est en Turquie. Ils sont connus à une exception.
Et oui, c'est la Turquie qui attend de connaître son adversaire en quart de finale à l'issue du duel de ce soir entre la Serbie et Cuba. La Chine, victorieuse par 72-67 du Bélarus, affrontera l'Espagne. Le Canada a éliminé la République tchèque 91-71. Pour affronter en quart l'Australie et les États-Unis croiseront la France victorieuse ce soir du Brésil 61-48.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donangmaï pour les sports.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Nico. Davido est sur tous les Nadja Beats. La chanson Sexy Lady en featuring avec Reed Femi fait bouger actuellement les scènes du club dans tout le Nigeria. On écoute Sexy Lady.
Aha! One mind and one conscience, you know, la sego be. Aha, making me like that. Is Davido Sexy Lady? You just said that's good. I don't mind though, I want them not to be one, to be one. I swear I'm a monkey, you're pushing ready, yo. Pushing shady, yo. Pushing tricky, yo. Nako jibbe bianya kwa le, jibbe bo wo mi. Jibbe bianya kwa le, jibbe bo wo mi.
Voilà, c'était donc Davido feat Ritze Femi, c'est ça Roger?
Exactement, ça c'est sûr.
Voilà, c'est Sexy Lady. Merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show à 20h temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec et Nicolas Pineau au micro. À demain. It's time to boogie though. No, 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 no.